Bonjour. J'apprends à mes enfants à faire la différence entre les besoins qu'ils pensent être légitimes et leurs besoins réels. C'est la même chose, c'est un apprentissage qui dure toute la vie. Mes enfants ont besoin, pensent-ils, de regarder plein de dessins animés et de manger plein de bonbons. C'est un vrai besoin profond. Mais je leur apprends qu'ils ont besoin d'une meilleure nourriture que les bonbons et d'apprendre d'autres choses et de faire d'autres choses que de regarder des dessins animés. Et finalement, les Écritures, la Bible, et notamment au travers de l'apôtre Paul, nous enseignent à discerner quels sont les besoins les plus importants pour l'Église. Quelles sont les expériences spirituelles que l'on doit rechercher plus que tout dans notre vie communautaire et notre vie d'Église? Quelles doivent être nos grandes préoccupations? Il y a celles que nous pensons avoir et celles que les Écritures nous enseignent. Et ce que je vous propose, c'est que nous puissions regarder ce que les Écritures, ce matin, nous enseignent par rapport à ce qui doivent être nos grandes préoccupations. Et avec cette année où nos activités reprennent, ça va nous mettre, je pense, sur des bons rails. Certains pensent que ce dont nous avons plus besoin, c'est de faire des expériences de bénédiction de la part de Dieu, mais qui sont avant tout des bénédictions matérielles. Au travers de ça, on pourrait dire, par exemple, qu'il y a certaines églises qui mettent en avant les bénédictions matérielles au travers des guérisons physiques que nous pouvons expérimenter au travers de la maladie ou des miracles en tout genre. Et les Écritures affirment que Dieu est tout-puissant et que souverainement, il peut décider de guérir quelqu'un de façon miraculeuse, c'est-à-dire sans aucune intervention des moyens normaux qui sont mis à notre disposition de façon ordinaire. Ceux qui ne le croient pas aujourd'hui et qui se revendiquent du christianisme se revendiquent d'un christianisme qui est tout sauf biblique. Et d'un autre côté, quand nous parlons d'expérience spirituelle intense dans la vie d'Église, rien que le mot « expérience » fait tressaillir de peur d'autres qui ont peur de tout dérapage qui pourrait se produire dans l'Église. Et comme si la foi chrétienne, finalement, devait se vivre dans une ambiance qui serait celle d'une morgue où il faudrait que tout soit froid, sans émotion. Mais les Écritures donnent une troisième voie. Jamais vous ne verrez une prescription dans les Écritures qui disent que pour manifester la présence de Dieu dans l'Église, il faut qu'il y ait des miracles. Vous ne trouverez jamais ce commandement qui est là. En revanche, les Écritures nous donnent des indications et nous encouragent à rechercher une manifestation surnaturelle dans l'Église. Et je voudrais que nous lisions ensemble un texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul ne va pas parler directement aux Éphésiens, mais il va prier, et nous allons voir ce qu'il demande à Dieu pour l'Église. Donc, l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, c'est la page 768. Et je lis à partir du verset 14, page 768. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Paul demande dans cette merveilleuse prière à Dieu que ses lecteurs, que l'Église d'Éphèse, et au travers de l'Église d'Éphèse, pour toutes les générations, donc y compris pour notre Église ici aujourd'hui à Grenoble, de faire trois expériences. La première, l'expérience d'une force intérieure qui nous dépasse. C'est dans les versets 16 et 17. La deuxième, la fin du verset 17 jusqu'au verset 19, l'expérience d'un amour qui est sans limite. Et troisième expérience, l'expérience de la maturité spirituelle. Voici les trois requêtes de Paul vis-à-vis de Dieu. Une force intérieure qui nous dépasse, un amour sans limite et une maturité spirituelle. Et c'est ces trois sujets que je vous propose de voir plus précisément maintenant. La première, celle d'une force intérieure qui nous dépasse. L'apôtre Paul dit « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Ici, par cette phrase vraiment développée, Paul n'a qu'un seul et unique sujet de prière. La puissance de l'esprit dans notre être intérieur et la présence de Christ en nous sont deux formulations d'une seule et même requête. Parce que c'est par l'esprit que Christ habite dans nos cœurs. Et Paul nous dit que cet esprit agit puissamment en nous afin d'y faire résider le Christ de plus en plus. Cet terme d'être intérieur ne sont plus trop utilisés dans nos jours, mais qui sont propres aux Écritures. L'être intérieur, finalement, c'est tout ce qui recouvre dans la Bible le siège de notre volonté, le siège de nos pensées, de notre conscience morale, de nos désirs, de nos affections, de nos passions. C'est le cœur. Le cœur dans la Bible recouvre tout ce mot-là. Et pourquoi Paul fait-il cette requête que le Saint-Esprit nous donne la force spirituelle? Eh bien, j'enfonce une porte ouverte peut-être pour beaucoup d'entre nous, mais c'est parce que c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, qui nous donne la force spirituelle d'aimer et d'être transformé par Jésus-Christ. Aucun chrétien sur terre ne peut envisager développer une quelconque qualité morale ou un quelconque changement dans son cœur ou remporter une quelconque victoire sur des tentations ou sur des péchés par ses propres forces. Nous sommes en toutes circonstances totalement dépendants de l'œuvre et de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Le combat est dur dans la vie chrétienne quand nous voulons conformer nos vies aux attentes de Dieu pour nous, quand nous voulons lui plaire, parce que les tentations sont puissantes, les épreuves arrivent parfois par vagues incessantes dans nos vies, et nous vivons dans une société où absolument tout va à l'inverse de ce qui est à la volonté de Dieu. Mais pour être saint, pour obéir, pour être sage, pour penser et agir avec foi, d'une manière qui plaise à Dieu, nous avons besoin d'une force spirituelle qui agisse en nous. Eh bien, c'est le Saint-Esprit lui-même qui agit puissamment en nous. C'est Dieu qui déploie sa force par le Saint-Esprit pour que Christ réside de plus en plus en nous. Le Dieu qui est trinitaire, les trois personnes de la Trinité sont mentionnées ici par Paul. Il faut que Dieu, les trois personnes de Dieu, Dieu à 100% est impliqué dans nos vies pour nous transformer. Et que fait l'Esprit en nous? Paul le dit. Eh bien, il fait en sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Quelle belle expression qu'utilise Paul ici. Il veut que Christ habite en nous par la foi. Et finalement, c'est une expression que nous utilisons dans notre vocabulaire plutôt pour parler du début de la vie chrétienne, de l'étape décisive qu'est la conversion, lorsque Christ vient habiter dans le cœur d'une personne pour le faire naître de nouveau et en faire de lui son enfant. Là, Paul ne parle pas à des gens qui ne sont pas convertis, il parle à des chrétiens, une église qu'il connaît très bien, qu'il avait lui-même fondée. Mais Paul, ici, dit quelque chose de différent en disant que Christ doit habiter dans nos cœurs. Et je voudrais l'illustrer ainsi. Il y a 2 ans, nous avons acheté notre appartement. Nous sommes devenus propriétaires, enfin, nous le serons dans 25 ans, mais nous sommes devenus endettés, ça c'est sûr. Mais en tout cas, bref, simplifions, nous sommes devenus propriétaires. Et je me souviendrai toute ma vie, et c'était quelque chose de fort pour moi, ça me dépassait. Déjà quand j'ai donné le chèque chez le notaire, ça fait bizarre. Et ce qui m'a fait encore plus bizarre, c'est quand nous avons reçu les clés. Je me disais, c'est pas les clés d'un appartement que je loue, c'est les clés de chez moi. C'est mon premier chez moi à moi. C'est fou ça. Et je me disais, ça y est, je suis propriétaire. Et puis, je suis rentré dans cet appartement, enfin, nous sommes rentrés dans cet appartement, il était vide, il sentait une odeur étrangère, en l'occurrence le lapin, parce que les anciens propriétaires avaient un lapin, il était vide et impersonnel, mais c'était chez moi. Et puis, nous avons commencé à habiter, et à habiter de plus en plus, et à demeurer dans ce nouvel appartement. Ça fait 2 ans et aujourd'hui, il ne sent plus le lapin, il sent nos odeurs à nous. Pas de commentaire. Cet appartement, maintenant, il y a nos meubles, il y a des cadres avec nos photos, il y a nos vêtements et nous avons investi toutes les pièces une à une. C'est cette métaphore-là que Paul est en train d'utiliser. Il veut que Christ habite de plus en plus dans nos cœurs. Que toutes les pièces de notre âme, tout notre être intérieur, que Christ y réside avec toute sa présence. Jésus n'est pas un ami routard que l'on dépanne en lui prêtant notre canapé pour quelques nuits, en lui disant « fais comme chez toi ». Non, Christ est propriétaire de nos vies, de nos cœurs qu'il a rachetés par son sacrifice à la croix. Et il veut résider dans nos cœurs. On pourrait dire régner de plus en plus dans toutes les pièces de notre vie. Et il ne faut pas se faire d'idée. La maison qu'il a rachetée, quand il nous a rachetés, nous chacun individuellement, était une maison délabrée, en ruine et sale. Mais il l'a rachetée. Et ce que veut faire le Saint-Esprit, c'est le ménage de plus en plus, d'occuper de plus en plus de place pour que Christ y réside de plus en plus. Et il y a des pièces dans notre habitation intérieure que nous tenons fermées, des pièces dont nous avons honte, qui sont plongées dans les ténèbres et dans des choses sales. Et probablement que nous avons encore peur de les ouvrir, parce que peur du chantier qu'il va y avoir, peur d'abandonner ce que nous y cachons. Mais Paul prie, et nous sait notre prière, que Christ habite dans toutes les pièces, dans la pièce qui est la plus sale, la plus secrète et qui sent le plus mauvais. Christ veut y habiter, veut la nettoyer, veut purifier. Christ veut habiter de plus en plus chez nous. Voici la première requête de l'apôtre Paul. Et ce n'est pas avec notre force que nous allons produire les changements, c'est par la présence et la puissance du Saint-Esprit que nous allons le vivre. Et comment en être participant ? Paul le dit, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est par la foi que Christ habite de plus en plus en nous. C'est-à-dire en commençant à le lui demander, à lui plier le genou devant lui, comme Paul plie lui-même le genou devant le Père, et dire « Dieu, fais ton habitation pleine et entière dans ma vie. » Et à cette prière, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu y répondra, parce que c'est sa volonté. Ce n'est pas en comptant sur nos forces, mais en comptant sur ses forces, en commençant à obéir à ses commandements et à le laisser pointer la lumière dans les zones les plus ténébreuses, en ouvrant et en le laissant régner dans toutes les pièces. Voici la première requête de l'apôtre Paul, faire l'expérience d'une force intérieure qui nous dépasse. Deuxième requête de l'apôtre Paul, faire l'expérience d'un amour qui est sans limite. Et cette deuxième requête se fonde sur la première. Paul dit, il prie que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Ces deux métaphores d'être enracinés et fondés sont vraiment belles parce qu'elles font le lien entre ces deux promesses. Christ veut prendre possession, s'enraciner en nous de plus en plus par le Saint-Esprit, que ses racines presque viennent nous asphyxier. Au contraire, enfin non, l'idée c'est plutôt de nous vitaliser et qu'il soit le fondement de toute notre vie pour que l'on puisse la bâtir là-dessus. Et enracinés et fondés, eh bien, nous pourrons faire cette expérience de son amour qui est sans limite. Nous avons tous goûté à son amour, nous qui sommes ses enfants. Mais maintenant, Paul demande à Dieu qu'on en fasse une expérience toujours plus forte, encore et encore. Et Paul déploie, j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire pour nous encourager à essayer de visualiser cet amour de Christ qui est sans limite. Et il parle de la largeur, de la longueur, de la hauteur, de la profondeur. Et je regardais dans des commentaires et il y a plusieurs théories qui sont là et certains essayent de parler en disant qu'il veut faire mesurer en comparaison avec le cosmos, mais c'est encore au-delà de tout l'univers. Mais d'autres pensent que la largeur, eh bien ça nous rappelle la largeur de l'amour de Dieu pour tous les hommes, qui s'étend à tous les hommes et qui appelle tous les hommes à revenir à lui. La longueur, eh bien un amour qui dure de toute éternité pour nous et qui durera éternellement. La profondeur, eh bien cet amour qui a conduit le Christ jusqu'à la mort et jusqu'aux profondeurs de la mort et qui est capable d'aller rechercher l'homme qui est le plus loin de lui à cause de ses péchés, eh bien son amour peut l'atteindre. Et la hauteur, eh bien son amour qui va nous élever jusqu'aux cieux et qui nous garantit la vie éternelle. Quoi qu'il en soit, l'idée de Paul générale est celle-ci. L'amour de Jésus pour nous est sans limite, sans commune mesure. Nous ne pouvons le mesurer. Et Paul utilise un paradoxe qui est vertigineux. Au verset 19, il dit que vous puissiez connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Essayer de connaître ce qu'on ne peut pas connaître, de faire l'expérience de ce qui est immesurable. Paul souhaite que l'on puisse faire connaître cet amour infini et en même temps, cet amour-là, on ne peut pas le comprendre. Et plus finalement on ne le comprend pas et plus il nous dépasse, mieux nous connaissons. Vous voyez le paradoxe ? Plus nous réalisons qu'il est immesurable, plus nous réalisons à quel point il est grand et plus nous l'aimons et plus nous connaissons ce Dieu. Et comment être capable de faire l'expérience de cet amour qui nous dépasse ? Paul nous donne une indication qui est claire ici et qui va à l'encontre de beaucoup de compréhension. Paul dit, pour être capable de comprendre avec tous les saints, quel est cet amour ? Ici, les saints, ce ne sont pas les saints du calendrier. Les saints, dans la Bible, ce sont les chrétiens, c'est l'Église, c'est tout le peuple qui est racheté. Et Paul affirme ici, Christ nous a aimés individuellement à la croix. Le salut est personnel. Mais nous avons besoin d'être immergés au sein de la vie de l'Église pour mesurer ensemble cet amour qui nous dépasse. C'est merveilleux. C'est une expérience forte que nous sommes appelés à vivre en tant qu'Église, tous ensemble. Et nous vivons à une époque très individualiste et l'individualisme, eh bien, pénètre aussi la pensée chrétienne. Et nous pensons que c'est quand nous sommes seuls à nous balader dans la forêt que nous pouvons faire la plus grande expérience de l'amour de Dieu. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. L'apôtre Paul dit que c'est avec tous les saints, que c'est une expérience qui est communautaire. Parce que pour comprendre à quel point l'amour de Christ est grand, je n'ai pas les moyens et j'ai besoin de toute l'Église autour de moi pour m'aider à comprendre et à faire l'expérience de cet amour. Certes, quand on se balade et qu'on voit les arbres, la forêt, voilà, et plein de belles choses, eh bien, ça nous rappelle quel est ce Dieu créateur et son amour. Mais la plus grande expérience d'amour à laquelle nous sommes appelés, c'est cette expérience qui se vit dans sa dimension communautaire. L'Église, dans la pensée de Paul, est centrale, et dans la pensée de Dieu, est centrale pour que nous puissions grandir dans notre foi et exprimer notre amour à Dieu. Il n'y a qu'une seule Église, et elle est universelle. Elle est composée de toutes celles et ceux que Christ a rachetés et qui ont placé leur foi en lui. Mais cette réalité de cette Église universelle, Dieu a voulu que nous la vivions à une échelle réelle, humaine, concrète, qui est l'Église locale. Et c'est donc dans le vécu de notre Église locale que nous faisons l'expérience de cet amour. Pensons au culte en particulier. Lors du culte, nous nous rassemblons ensemble. Et je vois, quand nous nous rassemblons, mes frères et sœurs. Et je me rappelle que pour chacun d'entre eux, Christ est mort sur la croix. Et je vois l'étendue de son amour. Quand nous chantons ensemble, nous nous chantons aussi les uns aux autres. Et nous nous rappelons à quel point l'amour de Christ dure depuis toujours et pour toujours. Quand nous écoutons les uns et les autres prier, nous entendons encore l'amour de Christ qui a été déversé ensemble et nous nous édifions ainsi dans l'amour. Et je pense à une expérience toujours à celle de la Sainte Cène, où nous nous rappelons communautairement que nous ne formons qu'un à cause de l'amour de Christ pour nous. Et je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai pu prendre la Sainte Cène avec mon frère David. J'ai deux frères, David et Yves. Yves a été sauvé bien avant nous. David et moi avons eu une vie beaucoup plus dissolue et ensemble, nous avons fait les 400 coups. Et quelques mois avant, nous étions ensemble à fumer des joints, à boire, à faire n'importe quoi. Et quelques mois plus tard, nous étions ensemble dans l'église en train de prendre la Sainte Cène. Et je me souviens, on se disait, mais on est sauvés. On se rappelait qu'on était sauvés et on était fous. On n'arrivait même pas à mesurer et de voir mon frère ici. Et quand je me rappelle notre histoire familiale et ce qu'on a vécu ensemble et nous voir ensemble là, de rencontrer des nouvelles personnes au fur et à mesure. Et quand je reconnais les parcours de vie et que je me dis cette personne, elle était simplement en recherche. Et aujourd'hui, c'est mon frère, c'est ma sœur. Christ est mort pour elle. C'est cette expérience-là que nous sommes appelés à vivre en Église. Et ce n'est qu'en Église que nous pouvons tenter ensemble de mesurer cet amour-là. Et quelle tristesse quand je vois des personnes qui veulent simplement que des miettes de la vie d'Église, qui de temps en temps simplement vont se contenter du culte et qui se privent de tout le reste, mais elles se privent de pouvoir mesurer l'amour et de pouvoir grandir ensemble. Certes, l'Église déçoit. Oui, bien sûr qu'elle déçoit, mais on grandit dans l'amour, dans la déception, parce que nous apprenons à nous pardonner les uns aux autres, parce que nous aussi nous décevons et nous sommes au bénéfice de l'amour des autres. Et quelle joie quand je vois ce que nous vivons dans les groupes de semaine ou dans le service que nous partageons ensemble, les frères et sœurs qui partagent le concret de l'amour de Christ dans leur vie. Il ne faut pas se priver de ça. Nous en avons besoin pour grandir. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Je repense à, encore là-dessus, et je passerai à la suite, à une BD qui est très connue en noir et blanc, qui raconte l'histoire d'un bonhomme qui s'appelle Willy Grunch. C'est très connu dans nos milieux. J'avais lu ça il y a très longtemps, et il y a quelque temps, j'étais dans un centre de vacances, il y avait une BD posée, et je lis une planche de la BD, et on voit ce jeune chrétien qui est dans l'église et qui ramène un ami à lui qui n'est pas chrétien, et cet ami est un peu ignoré par les gens autour qui manquent apparemment d'amour, de timidité. Et lui, il voit ça, et il fait un scandale, et il s'en va, avec son ami non-chrétien. Le message étant, si ton église n'est pas capable de montrer de l'amour, quitte l'église. Quel message, je me suis dit, quand tu es jeune chrétien et que tu lis ça. C'est tout l'inverse à quoi nous sommes appelés. Au contraire, nous avons besoin, si nous voyons, constatant un manque d'amour dans l'Église, nous devons interpeller l'Église et dire « nous manquons d'amour, notre place et notre croissance dans la foi se vit dans l'Église ». Et l'Église a besoin aussi que nous l'interpellions pour qu'elle vive vraiment l'amour qui doit être vécu. Plus Christ se forme en nous, plus nous aimons son Église qui est son corps. Et nous ne pouvons pas nous réclamer de Christ si nous rejetons son Église. Nous avons besoin de vivre cette vie-là. C'est comme pour tenter de soulever une voiture tout seul. C'est impossible. Si on se met ensemble, on y arrivera peut-être. Eh bien, essayons ensemble de soulever l'amour de Christ. Tentons. Et plus nous allons essayer de le faire, plus nous serons transformés par cet amour. Première expérience, celle d'une force intérieure qui nous dépasse. La deuxième, faire l'expérience d'un amour qui est sans limite. Et la troisième que nous donne Paul, c'est l'expérience de la maturité spirituelle. Il le dit à la fin du verset 19, « afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu ». Paul prie pour une croissance spirituelle qui atteigne la plénitude. La plénitude de Dieu veut dire tendre vers la maturité parfaite que procure la présence du Dieu Saint qui est en nous. Et il y a une dimension où Paul, en disant ça, il pointe vers un sujet de prière qui est éternel. Nous vivrons pleinement cette plénitude dans la nouvelle terre quand nous sommes avec Dieu et nous serons même jamais finis. Nous la vivrons pleinement, cette maturité-là et cette présence de Dieu en nous. Mais ce projet de Dieu, ce souhait de Dieu pour nous, a commencé d'ores et déjà depuis notre salut et l'Église doit grandir, doit désirer une croissance spirituelle plus que tout, une maturité spirituelle de ses membres plus que tout. Et c'est Dieu qui nous rend capables de grandir. C'est Dieu lui-même qui veut déverser en nous sa présence. Et Paul prie pour que l'Église soit de plus en plus mûre, afin qu'elle soit de plus en plus conforme à ce que Dieu souhaite pour elle. Vous êtes peut-être découragé de votre incapacité à désirer plus Dieu, à désirer plus vivre cette vie d'Église et avoir plus d'amour et faire plus d'expériences. Votre soif, peut-être qu'elle vous semble tellement petite. Et je vous rejoins, moi personnellement, le premier. En étudiant encore ce texte, je me disais, mais il y a tellement, tu dois encore tellement grandir, Raphaël. Mon cœur est toujours rempli. Notre cœur est toujours rempli de quelque chose. Eh bien, l'apôtre Paul nous demande à Dieu à ce qu'il lui-même nous remplisse de sa présence en nous, afin que ce à quoi nous accordons le plus d'importance pâlisse de plus en plus, perde de ses attraits, afin que Dieu, nous puissions voir Dieu de plus en plus comme il est et le désirer de plus en plus. Et ce que Dieu désire, c'est de faire grandir notre cœur afin d'y résider de plus en plus. Et ça, c'est merveilleux, parce que alors que je constate que mon cœur est trop étroit, je peux me rappeler par ce texte que Dieu veut le faire grandir lui-même de plus en plus pour y vivre de plus en plus. Et Dieu a l'intention de répondre à ce que nous lui demandons. Et nous arrivons à l'aboutissement de la prière de Paul. Et Paul va conclure en disant ceci: pour sa gloire dans l'Église, Dieu donnera plus que ce que l'on imagine. Paul est quelqu'un qui a la prière qui est très audacieuse. Nous le voyons dans ce qu'il vient de dire. Mais ses paroles vont encore plus loin. Et je suis convaincu que si elles n'étaient pas dans la Bible, et que si elle n'était pas prononcée par Paul, nous dirions, mais quel exubérant, comment ose-t-il parler comme ça à Dieu ? Regardez verset 20. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église. » Je trouve ça extraordinaire. Paul vient de demander des choses qu'on ne peut pas mesurer, qui nous dépassent. Et il dit, mais il faut demander encore plus. Encore plus, parce que Dieu veut nous donner au-delà de ce que l'on peut imaginer. Je me souviens d'un prédicateur qui disait « Nous sommes des milliardaires, mais nous vivons comme des smicards. » Et finalement, c'est quelque chose d'assez vrai. Nous ne prions pas comme Paul. Nous demandons trop peu parce que notre connaissance et notre compréhension de ce que Dieu veut nous donner est trop petite. Et nous devons laisser Paul et les Écritures nous apprendre à prier. Et il y a deux implications importantes. Nous ne demanderons jamais assez à Dieu. Écoutez bien, nous ne demanderons jamais assez à Dieu si nos demandes sont conformes à sa volonté. Jamais. Les richesses de Dieu sont au-delà de ce que l'on peut lui demander. En revanche, nous demanderons toujours trop si nous demandons ce qui n'est pas conforme à sa volonté. C'est John Stott qui affirmait que nous n'avons aucune autorité ou légitimité pour demander à Dieu ce qu'il n'a pas révélé comme étant sa volonté. Et ici, sa volonté nous est révélée. Allons plus loin. Je remarque une chose chez nous. Nos prières expriment ce qu'il y a de plus, le plus d'importance à nos yeux. Et ce sont souvent des choses matérielles pour lesquelles nous prions. La santé, la sécurité, la réussite sentimentale, universitaire, professionnelle, et j'en passe. Nous demandons beaucoup pour des choses qui sont légitimes. Arnaud nous le rappelait dimanche dernier, Christ a enseigné à ce que nous prions pour notre pain quotidien. Les besoins, c'est très spirituel de demander de prier pour nos besoins matériels. Mais les Écritures nous enseignent qu'il y a des besoins qui sont encore plus importants. Ce dont Dieu se soucie le plus, c'est de la sainteté de son Église. C'est qu'elle vive au sein de la communauté une expérience d'amour qui dépasse tout. Et c'est cela que nous devons demander le plus. Nous devons demander plus, avoir plus d'ambition spirituelle pour l'Église, conformément à la volonté de Dieu. Et je crois que l'application est toute tracée pour nous. Au travers de cette prière de Paul, c'est Dieu qui veut nous enseigner à prier. Et nous disons que les Écritures sont là pour transformer et nous enseigner dans tous les domaines de notre vie. Les Écritures doivent nous apprendre à prier. Et quand nous constatons nos prières qui ressemblent souvent plus à des catalogues de requêtes où nous énumérons des sujets encore et encore, Dieu fait, agit, fait ça. Regardons ce qui est le plus important. La parole doit transformer nos requêtes. Nous devons demander plus de bénédictions spirituelles parce que c'est ces bénédictions spirituelles qui sont à la gloire de Dieu. Si la richesse de Dieu se manifestait dans notre Église par un transfert sur les comptes de notre association, de 100 millions de milliards d'euros. Imaginons que nous devenions du jour au lendemain l'association, le groupe le plus riche qui ait jamais eu sur Terre. Et qu'ensemble nous nous retrouvions et que nous demandions à Dieu, donne-nous 2 euros, donne-nous 5 euros s'il te plaît. Alors que Dieu veut nous donner tout ça. Imaginez le bien pour notre Église et le fruit que nous pourrions porter si la vie de notre Église était saturée de prières comme celles que fait Paul. Nous vivons des choses déjà merveilleuses et nous nous en réjouissons, mais nous ne devons pas nous en contenter. Et toute la vie de notre Église, tous les programmes que nous avons doivent être là pour soutenir cette croissance spirituelle que nous vivons. Imaginez notre sainteté, notre zèle pour le témoignage, notre amour débordant les uns pour les autres. Dieu veut que nous vivions tout ça intensément. Et je voudrais conclure avec la question que j'ai posée au début de l'enseignement. Quel type d'expérience spirituelle doit-on rechercher à vivre plus que tout dans l'Église ? Paul nous en donne 3. Une force intérieure qui nous dépasse, un amour sans limite et la maturité spirituelle. Et quelles doivent être nos grandes préoccupations ? Eh bien, celles qu'avait l'apôtre Paul pour l'Église. Paul conclut ainsi sa prière, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. » Voici, je crois, la marque ultime d'une bonne santé de l'Église et d'une vie qui transpire la volonté de Dieu. Une Église qui cherche à glorifier Dieu en Jésus-Christ plus que toute autre chose et qui croient que tout bon fruit dans l'Église, tout progrès est grâce à la présence et à l'œuvre du Saint-Esprit au sein de l'Église. L'Église existe pour la gloire de Dieu seul et ne peut trouver sa joie et son bonheur que lorsqu'elle vit pour la gloire de Dieu seul. Que nos prières, notre vie communautaire, nos chants, toutes nos activités soient au service de sa gloire seule.